Mesdames et Messieurs, je vais, parce que je dis on va, mais c'est mal exprimé, je vais faire vraiment les choses, d'abord avec le moins de formes possible, et en second lieu, je vais les faire, si vous me permettez, sur un sujet qui n'est pas de nature habituelle dans ce que je dis, mais je vais le faire avec le souhait de répondre aux aspirations et aux requêtes qui ont été formulées par le directeur que vous venez d'entendre et que je remercie de son invitation. J'étais parti pour tout vous dire dans un exercice très classique, très habituel, qui aurait pu avoir une vocation pédagogique un peu scolaire. Autrement dit, la Troisième République, 1870-1875, jusqu'en 1940 ou 45, et on était parti pour un exercice qui aurait en gros repris chapitre par chapitre les différentes périodes de l'histoire de France durant ce long moment. En réalité, ce n'est pas du tout ce que l'exercice, d'après ce que j'ai compris, était supposé fournir. On m'a bien dit qu'il était inutile de lire ce que les bouquins d'histoire disent tout seuls, et on a ajouté que c'était inutile en plus d'expliquer les choses que tout le monde peut trouver en fonction de l'intérêt du moment. Donc ce que l'on m'a demandé, si j'ai bien compris, c'est plutôt en tant que parlementaire de livrer une série de réflexions et une série de remarques issues de l'histoire de la Troisième République et qui m'inspirent soit des leçons, soit des réflexions. Eh bien, je voudrais vous dire que c'est ce que je vais faire. Et donc, je voulais vous dire que, croyant en tout cas ainsi répondre à ce qui m'a été demandé, je ne vais pas vous faire une leçon chronologique. Pour ça, il n'y a effectivement pas besoin de bouquins. Pas besoin, pardon, de moi, les bouquins sont là. Il y a besoin, en revanche, d'essayer d'avoir une réflexion sur la Troisième République. Et c'est une réflexion à la fois d'histoire et de politique à laquelle j'ai essayé de me livrer. J'ai distingué, en ce qui me concernait, 6 chapitres, c'est-à-dire 6 réflexions que l'histoire de la Troisième République m'inspire directement. La première, et c'est dans un parallélisme de la Troisième et de la Cinquième République, c'est pour dire que, assez fréquemment, après des graves moments de notre histoire, et en particulier des lourdes défaites, il y a des changements de régime. Et ce qui me frappe dans la naissance de la Troisième République, c'est que celle-ci s'est faite dans un cadre qui était à la fois celui de l'instabilité, celui de la division et celui de la méfiance. Et vous comprendrez pourquoi je suis un petit peu plus insistant sur le paragraphe méfiance que sur les autres, parce qu'il m'inspire directement par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui, ou à ce qu'on a vécu au début de la Ve République, ce que nous vivons aujourd'hui dans la Ve République par rapport à ses débuts. La défaite, je n'ai pas besoin de l'expliquer, vous la connaissez, vous connaissez le contexte, 1870, Louis-Napoléon qui est à Sedan et qui est fait prisonnier. Vous savez comment les choses se passent. De ce côté-là, il n'y a pas besoin que je les décrive. En revanche, il y a deux ou trois choses qui me frappent énormément, parce que dans la Troisième comme dans la Cinquième République, on succède à des périodes qui sont des périodes de très grande instabilité. Regardez l'histoire de France et vous constaterez que durant, grosso modo, 18 siècles, enfin un petit peu moins, si, mais partons, disons, du 9e siècle jusqu'au 18e, une dizaine de siècles, vous avez une grande période de stabilité, qui est la période de la monarchie. On peut remonter un peu plus loin, on peut dire ce que l'on veut sur la monarchie, mais enfin, il y avait une continuité, une lisibilité. D'ailleurs, est-ce qu'il y a un seul bouquin d'histoire dans lequel nos enfants se plongent et qui ne met pas une rupture en 1789 ? Là, la Troisième République, c'est le monde de l'instabilité. Songez qu'entre 1789 et 1870, ce sont 7 régimes différents que la France a connus. Autrement dit, on a non pas simplement une naissance dans un contexte qui est un contexte de défaite politique lourde, de défaite, pardon, militaire lourde, mais on a une naissance de la Troisième République dans un contexte qui est un contexte d'instabilité. Et cette instabilité conduit tout naturellement ceux qui vont être en charge du lancement de cette Troisième République à rechercher comment y répondre, comment la contrer, comment donner un petit peu de force au régime. Et vous verrez que c'est une des constantes, me semble-t-il, qui s'inscrit dans l'histoire de la France depuis. Comment faire en sorte de corriger l'instabilité qui est un penchant naturel en France. Ça me permet d'ailleurs de vous faire remarquer que quand la Ve République a succédé à la quatrième en 1958, il y avait là également une forte période d'instabilité. On n'était pas dans une période de guerre de la même façon au début de la Ve République, mais vous noterez avec moi qu'on était dans une période qui était celle de la décolonisation, où il y avait sur les théâtres extérieurs des troupes françaises, des soldats français, et donc, pardon de le dire ainsi, mais c'est la vérité, des défaites qui commençaient là également à se rajouter à l'instabilité de la quatrième. La cinquième et la troisième, en ce sens, ont l'une et l'autre connu des naissances un peu similaires. La défaite, l'instabilité, c'est la division aussi. Ce qui frappe énormément quand on voit le contexte de la Troisième République qui démarre, c'est que les Français, là encore, comme à l'habitude, au demeurant, pardon de le dire comme je le pense, sont friands de la division. La division, on peut la caractériser en voyant la façon dont les républicains qui vont être appelés à gouverner sont à peu près d'accord sur rien, sauf sur le point de la défense nationale, avec notamment cette volonté de revanche à l'égard des Prussiens, j'y reviendrai. Et puis on la voit surtout chez les royalistes. Ce qui est aussi frappant que le reste quand on regarde la période, c'est de voir qu'en réalité, à l'issue du Second Empire, la France était prête à revenir à la monarchie. Et en gros, si vous aviez eu à ce moment-là une volonté affirmée et assurée de faire en sorte qu'il y ait un régime monarchique, vous auriez eu en France un régime monarchique. Ce qui a empêché ce régime de s'instaurer, ça a été justement le fait qu'il y a eu une division chez les monarchistes et chez les royalistes, pour dire les choses plus simplement, entre d'une part les légitimistes et d'autre part les orléanistes, ce qui est d'ailleurs, comme vous le savez, la division traditionnelle dans le cycle de la monarchie française. Mais ce qui est tout à fait impressionnant, c'est qu'en réalité, en un moment où il y avait quand même, qu'on le veuille ou pas, une opportunité pour les monarchistes de revenir aux affaires et de le faire dans un contexte qui était un contexte difficile, ils ont préféré, les monarchistes, se quereller, s'engueuler, je vais même vous donner des illustrations de ces engueulades, plutôt que de s'unir pour reprendre le pouvoir, ce qui aurait vraisemblablement pu changer le destin de la France. Il ne faut pas oublier qu'il y avait un roi de France potentiel en la présence, pour le légitimiste, pardon, d'Henri d'Artois, que les orléanistes étaient prêts à s'unir avec ces légitimistes sous la bannière d'Henri d'Artois, et qu'en réalité, il aurait suffi de très peu pour qu'un régime monarchiste s'instaure. Eh bien non, dans cette Troisième République démarrante, on a eu un contexte absolument particulier, puisque c'est celui de la division qui prévaut sur leurs propres intérêts. Et ça, pardon de le dire, mais c'est une des leçons, il y aura peut-être des questions que vous me poserez après, qui moi me frappe en politique, et que je continue à voir aujourd'hui, il y a des moments où nos familles politiques, celles de droite comme celles de gauche, mon propos ce soir n'aura pas une connotation politique une seule seconde, il y a des moments où on est bouleversé, où on se dit qu'en réalité, une famille politique est en mesure de pouvoir assurer à nouveau la responsabilité des affaires, mais elle préfère la division. Pour vous dire à quel point ce que je dis est illustratif de cet état d'esprit français, songez que Henri d'Artois, qui était donc le chef de la famille légitimiste, avait deux efforts à réaliser pour pouvoir réunir tout le monde. Le premier effort, c'était en fait l'abandon du drapeau blanc, qui était le symbole, comme vous le savez, de la monarchie, ça tenait à peu de choses. Il lui suffit qu'il abandonnât le drapeau blanc pour qu'en réalité, il passe un message fort à ceux qui, parmi les républicains modérés, étaient prêts à franchir le pas. Et on aurait pu tout à fait avoir de ce fait une espèce de passerelle qui s'instaurait au-delà de la famille monarchiste pour pouvoir se réunir sous sa bannière. Il ne l'a jamais fait. Mieux que ça, il a donné le sentiment qu'il le ferait, et puis, après avoir lancé, si je peux m'exprimer ainsi, cette espèce de symbolique, eh bien, il a tenu à réaffirmer son attachement au drapeau blanc. Ça a été son premier symbole de rupture. Autrement dit, le symbole de la division incarnée par Henri d'Artois est allé jusqu'à refuser, pour une question de cette nature, de rassembler les Français sous sa bannière. Ça vous rappelle d'autres rois de France qui demandaient qu'on se réunisse derrière la leur. Il a manqué à Henri d'Artois la volonté de réunir sur la base d'un symbole. Et mieux que ça, il a manqué à Henri d'Artois, dans sa propre famille politique, c'est le second pas, un seul geste envers la famille orléaniste, dont il aurait suffi qu'il demande à rencontrer le principal représentant, pour que celui-ci, qu'il avait indiqué préalablement, acceptât de se soumettre, c'est-à-dire de rejoindre Henri d'Artois. Qu'a-t-il fait ? Il a préféré refuser à nouveau, au nom de la fameuse scission qui date de Philippe Égalité au moment de la Révolution. Vous savez que Philippe Égalité avait voté la mort de Louis XVI et qu'il a été d'ailleurs lui-même décapité après, mais c'était la vraie scission entre les légitimistes et les orléanistes. Il aurait suffi d'un geste d'Henri d'Artois pour que tout ça aboutisse à ce regroupement, à ce rassemblement. Il n'a jamais eu lieu. Quand je vous dis qu'il y a la défaite, c'est facile à comprendre parce que les faits sont là. Il y a l'instabilité, je vous l'ai dit, avec ces sept régimes depuis 1789. Il y a surtout la division, et ce qui incarne cette division, c'est, à mon sens, plus que tout, la famille monarchiste. Qu'est-ce qui arrive dans ce type de situation? C'est une extrapolation politique que j'illustre aujourd'hui à partir de ce qui s'est passé. Bien, aux élections qu'on suivit, alors qu'il y avait un véritable espoir qui était mis dans la famille politique conservatrice, légitimiste, monarchiste, toutes les élections qu'on suivit ont abouti premièrement à ce qui est une chute électorale des monarchistes. Autrement dit, la déception suscitée dans l'opinion publique immédiatement s'est traduite en termes électoraux. Extrapolation immédiate, les électeurs des siècles qui se succèdent ne supportent pas quand on étale des divisions et quand on n'est pas capable de les surmonter alors qu'ils ont mis en vous un espoir. Et ça, il faut en avoir la leçon chevillée au corps. Et en second lieu, les hommes étant ce qu'ils sont, ils savent tirer les conséquences de situations de cette nature. Pourquoi je dis ça? Parce que Thiers, qui était appelé à de hautes fonctions, mais qui était prêt, en réalité, au fond de lui-même, à se ranger derrière une France qui serait une France monarchiste, Thiers a bien compris la situation. Il est devenu président de la République. J'aurai l'occasion de décrire ses titres dans quelques instants. Mais Thiers a parfaitement saisi que la situation telle qu'elle était créée par cette intransigeance d'Henri d'Artois, allait aboutir à lui donner une autre visibilité et une autre vision de la situation politique. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle il s'est tourné vers la République, une République certes à tendance monarchiste, une République certes mesurée et modérée, mais une République néanmoins. La division est pour moi le facteur qui est le plus intéressant dans la naissance de la Troisième République, parce que, je le répète, c'est ainsi que on voit et qu'on mesure combien elle bouleverse, alors qu'elle est surmontable, elle bouleverse les données politiques. Vous verrez d'ailleurs que ça a des conséquences au-delà même de ce que l'on pense. Quand Mac Mahon a succédé à Thiers quelques années plus tard, il restera, lui, profondément ancré sur une restauration de la monarchie. Et il le fera d'ailleurs en mettant en avant une expression qui est quand même assez particulière et que, pour ma part, j'ai toujours trouvé un peu inquiétante. L'association des deux mots, en tout cas, est inquiétante. En essayant de fonder un ordre moral et en promouvant les valeurs religieuses. Qu'on promeuve les valeurs religieuses ne me choque pas loin du monde. Je suis moi-même, au sens premier du terme, religieux, c'est-à-dire je suis pratiquant d'une religion. Mais cela dit, qu'on essaie de restaurer un régime, en l'occurrence la monarchie, en promeuvant un ordre moral et en se faisant le chantre de valeurs religieuses, démontre en quelque sorte que dans le début de la Troisième République, la division qui avait séparé la famille monarchiste aboutissait à des prises de conscience politique qui elles-mêmes divisaient les hommes. Je l'ai dit pour Thiers, qui avait une vision républicaine par obligation de ce début de la Troisième République. Je le dis pour Mac Mahon, qui a succédé à la présidence de la République, mais qui était dans une logique radicalement différente et qui était celle d'une restauration d'un régime monarchiste en tant que tel. Et si je dis ça, c'est parce que vous voyez bien que la même leçon aboutit à des situations qui sont des situations radicalement différentes. Alors, ce qui est intéressant par rapport à cette situation, c'est que il y a eu, au-delà de cette instabilité, de cette division, il y a eu en troisième lieu une méfiance dans ce début de la Troisième République tout à fait profonde dans la personne du président, dans la fonction de président de la République. Et c'est quelque chose sur lequel je voudrais maintenant dire un petit mot. Qu'avaient constaté les Français? Ils avaient constaté qu'il y avait eu deux fois de suite dans les années qui précédaient des républiques qui ensuite avaient été suivies par des coups d'État militaires et donc par des empires. Et que dans les deux cas, ça s'était terminé par un affaiblissement profond de la France après des guerres, il est vrai, de nature différente, puisque le premier empire a été à ce titre jusqu'en 1815 tout à fait particulier. On a eu, avec cette situation d'instabilité, mais en même temps de défaite et donc de crainte des Français de revoir un pouvoir fort qui pouvait terminer à nouveau par un coup d'État et à nouveau par un empire, on a eu de la part de nos concitoyens une méfiance envers la fonction présidentielle. Et ça se traduit dès le début de la Troisième République par le fait que nos concitoyens souhaitent dissocier le titre de président de la République et le titre de président de l'exécutif. Et ce en quoi la Troisième République, dans ses débuts en tout cas, est assez intéressante, ça a évolué après, notamment avec Thiers, c'est que dans les tout premiers instants, si j'ose dire, de la Troisième République, l'histoire est tellement présente dans l'esprit de nos concitoyens et du personnel politique qu'il donne au président de la République une fonction qui est une fonction en quelque sorte honorifique, qui n'est pas la fonction de chef de l'exécutif, et ça aboutit très concrètement et très naturellement à ce que ce président de la République-là soit cantonné dans un rôle, non pas par défi ou par défiance à l'égard des hommes qui vont briller la fonction et d'ailleurs l'obtenir, mais par rapport à ce que la situation du passé les a conduits à avoir. Et là où je le dis avec mes convictions, mais je le répète, c'est pas de la politique, c'est simplement une façon de vous faire part de mon modèle et de mon propre vécu, là où je dis les choses avec admiration et ça justifie mon engagement, avant d'être à l'UMP, j'étais au Rassemblement pour la République et j'étais gaulliste, c'est ça qui m'a conduit à y venir, c'est que c'est le général de Gaulle, en fait, qui aboutira après, pas dire de bêtises, mais quasiment 90 ans, ou 80 ans, c'est ça, 90 ans, qui aboutira à pouvoir inverser cette image d'un exécutif et d'une tête de l'exécutif très forte par rapport à une situation qui est une situation où l'instabilité, la guerre, la défaite et la division ont marqué le paysage politique. C'est ça qui fait, à mon sens, la force de Gaulle et qui est en contrepoint exact de ce qui s'est passé au début de la Troisième République. Donc la première, si vous voulez, pas leçon, la première réflexion que je me suis faite en réordonnant les idées et en sortant de toutes les chronologies, c'est que la naissance de cette Ve République s'est faite dans une situation qui est celle-là. La seconde leçon sur laquelle je me suis épanché parce qu'elle m'intéressait, c'était le paradoxe de Paris. Si vous dites Troisième République, n'importe qui, je veux dire, il n'y a pas besoin d'ouvrir ses bouquins, vous parle à peu près immédiatement de la Commune. Et tout le monde va vous dire la Commune de Paris, et ainsi de suite. Et donc, j'aurais sans doute tenté de ne pas éviter ce piège, si vous ne m'aviez demandé de le faire, en vous disant en quoi le déroulé de la Commune de Paris est intéressant. En réalité, ce qui s'est passé avec la Commune de Paris, à mon sens, c'est que nous avons là, dans le début de cette Troisième République, sur Paris, toute une série de paradoxes qui se juxtaposent les uns aux autres et qui méritent qu'on s'y arrête. Le premier paradoxe de la Commune de Paris, c'est que Paris est devenu le symbole de la résistance républicaine, alors même que Paris était pendant des siècles et des siècles, et même depuis l'installation du roi à Versailles, le siège du pouvoir royal. C'est-à-dire qu'on a en réalité un Paris qui incarne en quelque sorte la République, la résistance à la défaite, la volonté de continuer à manifester des idéaux auxquels on croit, alors même que tout laissait à penser que Paris pouvait être en quelque sorte une sorte de symbolisation du conservatisme. La Commune de Paris, en ce sens, c'est quand même, qu'on le veuille ou pas, quelque chose d'exceptionnel. Et je suis tout à fait intéressé sur un point, c'est que Paris va avoir à ce moment-là une image qui va se transformer, qui va se bouleverser dans l'opinion publique française, et notamment dans les provinces, parce que ça devient une forme de représentation du progressisme, que la révolution de 1789, évidemment, avait déjà manifesté, et qui, cette fois-ci, s'affermit, va rentrer durablement, on y reviendra, dans l'inconscient, comme d'ailleurs dans le conscient des Français. Le second paradoxe de Paris, c'est que les thèmes de la Commune de Paris sont totalement opposés au centralisme. Et ça, j'attire votre attention là-dessus, parce que au moment où nous travaillons sur le Grand Paris, c'est quelque chose qui me frappe énormément. Avez-vous conscience qu'au moment de cette Troisième République qui démarre, on pourrait penser que Paris va être, dans son programme politique, en quelque sorte le parangon d'une espèce de centralisme avec des pouvoirs qui soient à Paris, avec un centralisme qui soit réaffirmé, qui aille dans la continuité d'ailleurs de ce que le pouvoir des empereurs avait affirmé. On pourrait penser que tous les programmes vont être des programmes aboutissant à faire de Paris à nouveau la plateforme centrale. Mais c'est exactement l'inverse qui va se passer. Et quand on étudie les thèmes politiques qui sont ceux de la Commune, il y en a trois en ce qui me concerne que j'ai noté parce qu'ils m'ont plus particulièrement intéressé. C'est d'une part la démocratie directe et pas représentative. Autrement dit, on veut pouvoir exercer un contrôle directement sur les élus sans passer par des représentants ou des intermédiaires. C'est un espèce de désir de faire en sorte de pousser l'idée même de démocratie à son extrémisme. C'est en second lieu l'autonomie des collectivités territoriales et la décentralisation. Autrement dit, la Commune de Paris se revendiquant, puisque, comme vous le savez, le conflit de la Commune de Paris entre les Versaillais, entre guillemets, et la Commune elle-même, c'était par définition le conflit du pouvoir central et de la Commune de Paris en tant que telle, eh bien, le programme politique de la Commune de Paris, c'est l'autonomie des collectivités territoriales, dont Paris, qui la revendique haut et fort, et qui demande à ce moment-là qu'elle soit poussée à son extrême, c'est-à-dire la décentralisation. Et troisième point qui est un peu connexe à cette idée de l'autonomie des collectivités territoriales, mais qui n'est pas la même chose, c'est la volonté de la liberté communale. Et là, je trouve que c'est un sujet qui est un sujet particulièrement intéressant, parce qu'au début de cette Troisième République, on est quand même dans une logique qui fonde un régime qui durera ce qu'il durera, mais personne ne le sait à l'époque, mais qui le fonde en étant en contradiction avec l'idée d'un pouvoir central bien installé, bien identifié, symboliquement installé à Paris, et donc un pouvoir central qui soit fort. C'est quand même un paradoxe que je trouve tout à fait intéressant, parce que, pour dire les choses avec clarté, c'est exactement l'inverse de ce que, je crois, on pouvait s'attendre. Alors, la Commune de Paris, vous savez comment ça s'est fini, vous savez que Thiers de Versailles a envoyé des armées pour pouvoir la mater, vous savez que les Parisiens ont accueilli les soldats qui venaient retirer les canons qui avaient été installés par les Parisiens. Les soldats ont été accueillis par les Parisiens avec chaleur. Il y en a eu d'ailleurs, il y a eu des cas nombreux de ralliement. En réalité, ce qui s'est passé à la Commune de Paris, il faut le savoir, et ça a modifié sans doute l'image de l'armée dans l'inconscient public, et en particulier parisien, c'est que ce sont les Versaillais, les armées de Versaillais qui étaient des prisonniers libérés après le traité de Francfort, c'est-à-dire avec la Prusse, qui ont été envoyés directement sur Paris. Et là, on a eu, comme vous le savez, toute une série de conséquences, de massacres et autres, qui évidemment ne sont pas restés sans nom. Enfin, la deuxième idée qui m'inspire, c'est de voir le paradoxe de Paris, et pardonnez-moi de le dire, c'est exactement sur cette idée qu'aujourd'hui, en tant que député, mais en tant que maire, je suis appelé régulièrement à réfléchir et à travailler. Comment ne pas vous dire combien c'est quelque chose qui est parfaitement actuel lorsque l'on travaille sur les dossiers du Grand Paris. Nous sommes dans une logique, qui est une logique consistante à s'interroger tout le temps sur ce que l'on veut faire de Paris. Je me permets de le dire, ça n'a rien de politique, d'autant plus que je me suis abstenu à l'Assemblée ou sur le vote il y a deux jours. Donc vous voyez, je suis bien mesuré là-dessus. Mais ce qui est tout à fait intéressant, c'est de voir combien on a toujours cette espèce de paradoxe entre un Paris, comme le texte de loi aujourd'hui tente à le positionner comme ville-monde. L'ambition, c'est de rester en concurrence avec New York et Tokyo et Londres, qui sont les trois villes que le projet considère comme des villes-monde. On a cette espèce de tentation perpétuelle de se mettre à une échelle de cette nature. Et simultanément, le paradoxe, c'est qu'on ramène tout, toujours, à un Paris qu'on veuille ou pas, qui est Paris intramuros. C'est-à-dire cette espèce de tentation simultanée de tout regrouper par Paris. Si vous m'interrogez là-dessus, et je répète que ce n'est pas politique, je vous répondrai très volontiers, dans le projet actuel du Grand Paris, moi, il y a un des points sur lesquels je suis en désaccord, c'est le fait qu'on le veuille ou pas, qu'on n'est pas dans une logique qui est une logique de Grand Paris, c'est-à-dire des partenaires départementaux, comme le nôtre d'ailleurs, à égalité avec Paris, mais on a en réalité une structure qui se met en place, qui est une structure d'un Paris intramuros, qui s'étend sur les départements d'à côté, avec une mutualisation des moyens qui aboutit en fait à mettre au service de Paris intramuros les moyens des départements d'à côté. Et c'est la raison pour laquelle, je répète, je ne développe pas ici, ce n'est pas le sujet, mais il y a réellement des questions qui se posent. La seconde leçon donc que je tire de ce début de la Troisième République, c'est celle-là. Il y a bien, au début de la Troisième République, un paradoxe parisien, et je trouve que ce paradoxe parisien est en ce sens tout à fait intéressant à étudier, et qui nous met exactement, comme je le disais, dans l'actualité la plus chaude. La troisième leçon que j'ai tirée, qui m'intéresse tout autant que les deux premières, parce que là encore, on est en plein dans l'histoire la plus récente et on dépasse le cadre de la Troisième République, c'est qu'en réalité, quand on est vainqueur, on est souvent très, très bête. J'ai failli dire quelque chose de plus méchant. Quand on est vainqueur, on est souvent très bête, et qui que l'on soit. La Troisième République naissante, en réalité, juste après la guerre de 70, c'est en quelque sorte la Première Guerre mondiale qui est déjà enclenchée. Parce que, comme vous le savez, il y a eu ce traité de Francfort qui a été signé en mai 1871 et qui porte en germe absolument toutes les prémices de ce qui va se passer en 1914. Je ne parle pas simplement des aspects territoriaux que vous connaissez, avec l'Alsace et la Lorraine, enfin une partie de la Lorraine, qui sont annexées, ce qui d'ailleurs aujourd'hui continue à marquer historiquement et notamment juridiquement ces territoires. Je ne parle pas simplement de cette humiliation territoriale, mais il y a des symboles qui sont incrustés et qu'on retrouvera dans l'histoire, notamment en 1940. Parmi le symbole du traité de Francfort, négocié par Bismarck, il y a la volonté de faire défiler les soldats prussiens sur les Champs-Élysées. Cette volonté de faire défiler les soldats prussiens sur les Champs-Élysées, c'est également une question de symbole. Je vous ai parlé des symboles, je continuerai à vous en parler parce que c'est important. Les symboles, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le symbole du drapeau blanc. C'est le roi qui refuse absolument d'abdiquer le drapeau blanc, alors que s'il le faisait, ben, il réunirait quasiment tous les Français. Il refuse. Ben là, c'est un autre symbole, mais qui, à mon sens, est tout aussi intéressant que le premier. C'est ce symbole qui est celui du défilé sur les Champs-Élysées, par lequel on a la volonté de marquer, de manifester. Et vous verrez qu'on retrouve ça à l'issue de la Première Guerre mondiale, je vais y venir dans quelques instants, on retrouve ça, Première Guerre mondiale, dans la Troisième République, je précise bien, et on retrouve ça, mais tout à fait atténué, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Et ce qui m'interpelle sur ce point, c'est qu'en réalité, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, les leçons qui ont été tirées de la Troisième République et des conflits précédents, c'est qu'en fait, il faut être extraordinairement prudent à l'issue, évidemment, des traités. Le traité de Francfort, c'est également 6 milliards, puis ensuite 5 milliards de francs qui ont dû être payés. Ce sont des sommes qui sont absolument gigantesques. Et en réalité, la Prusse, et puis ensuite l'Allemagne, ont scellé un sentiment de revanche qui n'a jamais été désavoué de par la suite. Et le conflit de 1914, souvenez-vous-en, quand les soldats français sont partis, disait-on, la fleur au fusil, c'est parce qu'il y avait non pas simplement le sentiment d'être fort, mais également la volonté de se venger. C'est souvent dans le conflit précédent que l'on lit les raisons du conflit le plus récent. Je fais le parallélisme d'ailleurs entre le traité de Francfort en 1871 et le traité de Versailles de Sèvres de Saint-Germain, comme vous le savez, en 1919. Il s'est passé à peu près la même chose. Et ça s'est passé, c'est intéressant de le noter, dans un contexte qui est à peu près le même. C'est-à-dire qu'il y avait la même volonté d'arriver à humilier, en quelque sorte, le défait, en l'occurrence c'était l'Allemagne, de donner à l'Allemagne toute une série de conditions à remplir, notamment sur le plan financier, dont on savait parfaitement qu'elles ne seraient pas suivables. Et qu'est-ce que l'on a constaté? On est toujours dans le cadre de cette Troisième République. On a constaté que très rapidement, les mêmes causes ont produit les mêmes effets. Et on est allé plus loin que ça en 1921, 1922, même 1923, puisque, comme vous le savez peut-être, ceux qui, politiquement, avaient la présence d'esprit, l'objectivité de constater qu'on allait dans le mur et qui le disaient publiquement, je fais en particulier allusion à Aristide Briand, ont été sanctionnés pour cela. Vous savez qu'il y a eu un débat entre Poincaré et Aristide Briand, dont la teneur était la suivante. Est-ce que, oui ou non, on doit considérer que l'Allemagne ne pourra pas remplir les conditions que les traités lui ont imposées? Tout le monde savait parfaitement que l'Allemagne ne pourrait pas les remplir. Eh bien, non, il y a eu, plutôt que de trancher ce débat avec une volonté d'apaiser et une volonté de calmer, il y a eu cette espèce de montée en puissance, d'adrénaline, de sentiments belliqueux et de volonté d'humilier l'Allemagne. Ça a été l'occupation de la Ruhr, comme vous le savez, en 1923, je crois que c'est la bonne date. Et ça a été en réalité le fait que Briand a été écarté du gouvernement en 1921. Il est revenu en 1924 ou 1925 parce que les thèses de respect de l'adversaire une fois qu'on l'a battu étaient des thèses qui étaient antinomiques avec le sentiment de revanche. Et la troisième leçon que, pour ma part, je tire donc de ces débuts de la Troisième République, c'est qu'en réalité, on a tout à fait intérêt à bien étudier et à bien négocier, non pas simplement les sorties des crises, mais les sorties des conflits. C'est la façon dont on réussit à comprendre l'adversaire battu, qu'on a combattu, c'est la façon dont on arrive à le respecter, pardon de le dire, dont on arrive à le ramener à soi, c'est de cette façon-là qu'on se sort généralement des situations les plus difficiles. Je ne peux pas tout traiter, et c'est dommage sur cette question-là, parce que c'est intéressant, mais parmi ceux, parmi vous que cela intéresserait, je vous suggère de regarder, par exemple, comment faisait Lyautey quand il était en Afrique du Nord. C'était un modèle pour cela, Lyautey, dans la mesure où il avait une théorie, on peut discuter à perte de vue pour savoir si c'était bien ou pas d'y être, en Afrique du Nord, mais ce que faisait Lyautey, c'était la chose suivante: il combattait, il vainquait, puis ensuite il mettait en valeur, il récupérait, et il se servait de la force de ceux qu'il avait vaincus pour en vaincre d'autres. Et c'est comme ça que pendant un long moment, il a fonctionné. Je suis profondément convaincu qu'une des conséquences de la Troisième République, des traités de la Troisième République, c'est justement d'avoir beaucoup trop négligé cet aspect qui est un aspect humain plus que politique, et d'avoir enclenché toute une série de conflits qui aboutiront au drame de 1940 que vous connaissez. Et je termine sur ce sujet en vous disant que ce qui fait, à mon sens, l'intelligence et la force du début de la Quatrième République, c'est d'avoir eu des hommes politiques qui sont les grands Européens que vous connaissez, parce que vous les connaissez, et qui ont pris conscience que c'était le piège évité. Si vous me demandiez quelle est la leçon qu'il faut tirer des conflits de la Troisième République, je vous dirais que c'est la prise de conscience que c'est dans la victoire qu'on creuse sa défaite suivante et qu'on creuse les drames qui vont se forger. Qu'est-ce qu'ont fait les pères de l'Europe? Ils l'ont tout de suite compris, tout de suite. Et c'est la raison pour laquelle vous avez eu de façon beaucoup plus organisée toutes les institutions qui sont mises en place après la Seconde Guerre mondiale. Vous me direz qu'il y avait la SDR en 1918, mais c'est la mise en place de ces institutions, c'est la constitution de l'Europe autour de la France et de l'Allemagne avec le charbon acier, qui ont comme objectif d'éviter de revenir aux errements du passé. Et pardon de le dire, c'est une leçon qui, à mon sens, mérite d'être d'autant plus d'être méditée que pour l'instant, je touche du bois, j'en ai pas sous la main, mais je touche du bois, ça marche. Ça marche. Pardon de le dire, nous sommes, qu'on le veuille ou pas, dans des situations qui ne sont pas des situations faciles, et on constate aujourd'hui que c'est bien parce qu'il y a eu prise de conscience de cette nécessité qu'on a abouti à être à peu près, je dis bien à peu près, dans un monde stable, dans un monde tranquille depuis. En tout cas, je répète, moi la figure, il y a quelques figures, je vais parler d'une autre figure tout de suite, mais la figure de cette Troisième République qui m'intéresse le plus, il y a tellement de gens incroyables et magnifiques sur lesquels on pourrait parler pendant des heures, il faut bien choisir une ou deux, mais sur les conflits, mon souhait personnel, et je le dis parce que c'est sincère, c'est la lecture de Jaurès, qui était un type remarquable, qui était un esprit d'une finesse et d'une intelligence extraordinaire, et c'est la lecture de Jaurès avant les conflits, ses discours, notamment pacifistes, c'était pas le pacifisme de l'avant Seconde Guerre mondiale, c'était des discours qui sont d'ailleurs infléchis avant son assassinat le 31 juillet, mais c'était des discours qui étaient des discours empreints de réalisme, mais qui demeurait d'essence pacifiste et qui était fait avec une telle hauteur de vue que c'était magnifique. Puis la seconde figure à laquelle je rends hommage quant à la partie des proprement conflits, c'est évidemment Aristide Briand, cet homme qui a été écarté alors même qu'il avait vu juste, mérite qu'on s'attache sur son sort. C'est assez symptomatique de la vie politique française que d'avoir besoin, lorsque quelqu'un voit juste, de le mettre de côté. Et droite et gauche confondues, d'ailleurs, mesdames et messieurs, on peut penser ce qu'on veut des élus, mais droite et gauche confondues, c'est une particularité. Moi, je le dis et je vous donne un aperçu de mes réflexions personnelles, mais dans mon parcours politique, qu'est-ce qu'il y a avec des moments agréables, des moments qui le sont moins, mais j'ai toujours été impressionné par l'honnêteté intellectuelle et le courage des hommes. Et un des points qui m'a toujours frappé, c'est que je demande à un homme politique, non pas d'être brillant, j'en ai connu des hommes brillants, même si je n'ai pas travaillé directement avec eux, j'étais trop jeune, c'est par exemple Giscard d'Estaing, j'ai connu des hommes brillants après, mais ce que je trouve, j'ai des fins tacticiens, c'était François Mitterrand, les hommes politiques qui m'ont le plus impressionné, ce sont ceux qui disent juste et qui voient juste. Et à gauche, je ne vais pas remonter jusqu'à Madès France parce que j'étais trop jeune, mais un homme comme Michel Rocard, par exemple, moi, si j'avais été un homme de gauche, je me serais incontestablement rangé derrière la bannière de Michel Rocard, parce que j'ai travaillé un tout petit peu avec lui en une ou deux occasions. On peut penser qu'il a raison, on peut penser qu'il a tort, mais il y avait cette espèce de lucidité qui fait que, je me permets de le signaler, il a été enlevé du Parti Socialiste, enfin en tout cas des candidats, en peu de temps. Et nous, dans la majorité à laquelle j'appartiens, c'était le jugement que je portais à l'époque, je ne l'ai pas modifié, mais sur un homme comme Balladur, avec lequel j'ai travaillé, bon, il y avait ses qualités, il y avait ses défauts, c'est pas le sujet, mais quand il analysait la société française, je trouvais qu'il y avait chez lui une forme de justesse d'analyse et une forme de capacité à bien embrasser tous les problèmes à la fois. En réalité, il a été lui également mis de côté. Ce n'est pas d'ailleurs un regret que je formule ici. J'ai eu des excellentes relations avec Chirac que j'ai encore vu hier. Donc ce n'est pas ça qui me... Mais je veux simplement dire qu'il faut bien mesurer que là, il y a une question qui se pose. Pourquoi, comment on est toujours dans une logique qui consiste à pousser, à mettre de côté les hommes quand les hommes disent juste. La quatrième idée sur laquelle je vais vous dire un mot, elle est plus difficile à exprimer. Je dirais que ce qui fait la force de la Troisième République, et notamment avant le tournant du siècle, c'est sans doute d'être une des périodes dans lesquelles les réformes ont été les plus nombreuses et les plus importantes. Et ce qui est à mon avis tout à fait intéressant, c'est de voir, à mon sens, qu'il y a deux facteurs qui jouent. Et ces facteurs, je m'en sers encore aujourd'hui quand je m'interroge pour savoir pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à réformer la société française. La société française est difficilement réformable. Et je vais dire les choses telles que je les ressens. Si vous embrassez les périodes les plus récentes de notre histoire, mettez dans les 25 dernières années, la France a changé, la France a bougé. On a eu des réformes qui ont modifié notre cadre réglementaire. Je ne considère pas que la France ait été réformée. Et si vous me demandiez de citer dans les 15 dernières années une vraie réforme qui ait bouleversé les choses, peut-être la décentralisation pourrait-elle être évoquée à ce sujet, mais je n'en vois pas. Alors qu'en réalité, dans la période qui est la période de cette Troisième République, les réformes ont été gigantesques. Et il y a deux choses sur lesquelles je me permets d'insister parce que, à mon sens, ça les illustre bien. D'abord, c'est qu'il y avait des personnalités. Et des personnalités qui portaient ces réformes. J'aurai l'occasion de dire un mot, mais ce n'est pas le sujet. En plus, ça tombe très bien parce que quelqu'un vient d'en parler de façon plus pérenne. Mais j'aurai l'occasion de dire quelques mots tout à l'heure sur Combes et sur la séparation de l'Église et de l'État. Je ne considère pas que ce soit une réforme. Je considère que c'est un bouleversement, c'est une rupture. Ce n'est pas ce que j'appelle une réforme. En revanche, il y a une personne qui, à mon sens, est très représentative de cette capacité à réformer parce qu'elle avait parfaitement compris qu'il fallait qu'elle l'incarne, et elle l'incarnait. Et elle avait parfaitement compris qu'il fallait qu'elle la cible, la réforme, et elle l'avait fait. C'est Jules Ferry. Jules Ferry, ça a été la personnalité dominante des premiers gouvernements de républicains, c'est-à-dire de 1880 à peu près à 1885. Et je ne vais pas faire la liste de tout ce qu'il a engrangé comme réforme. Mais ce qui me frappe, c'est que si on essayait de voir quel est sans doute le plus grand réformateur de l'histoire de la Troisième République, et à mon avis l'un des plus grands réformateurs de l'histoire de France, on s'apercevrait que c'est lui. Et pourquoi? Parce qu'il s'était totalement, complètement, définitivement consacré à la réforme. Et il avait choisi, ce qui est le deuxième sujet au-delà de l'incarnation d'un homme, des sujets qui étaient parfaitement lisibles. Il y a deux sujets que vous connaissez aussi bien que moi et sur lesquels il a été parfaitement novateur. C'était d'une part toutes les réformes qui ont été faites dans le domaine de l'école républicaine, avec un objectif qui était clair, je vais y revenir. Et puis en second lieu, c'est tout ce qui concerne la liberté. Quel est le point commun entre les deux? Il y a deux réformes bien claires. C'est qu'il avait compris qu'il fallait qu'un homme les incarne, et c'était lui, et il avait compris qu'il fallait qu'il les décline, non pas en tant que réforme simple, mais en tant que volonté de faire une république avec des citoyens qui étaient des citoyens éclairés. Et des citoyens éclairés, ça suppose quoi? Ça suppose une école qui soit réformée, et ça suppose des libertés dont il ne jouissait pas. Et on voit très bien, sans mauvais jeu de mots, qu'il y a un tronc commun dans sa façon de procéder, qui était justement le fait de ne pas s'attacher à décrire une réforme, à rentrer dans un conflit, dans un contentieux avec les uns ou avec les autres pour décrire le corps de la réforme, mais il y avait une volonté de mettre en perspective une France réformée, une France qui était une France dans laquelle une idée allait émerger, c'était celle d'une France républicaine, faite de citoyens responsables, ce qui signifiait qu'ils avaient d'une part une formation pour avoir un jugement éclairé, et d'autre part une capacité de pouvoir donner justement l'expression de ce jugement, par des libertés qui sont des libertés réaffirmées. Alors, vous connaissez comme moi l'ensemble de ces réformes, mais enfin, l'obligation pour chaque département de se doter d'une école normale d'instituteurs, c'était grand, parce que c'était cher. La gratuité de l'enseignement primaire, c'était grand, parce que c'était cher. Et son caractère obligatoire, c'était grand, parce que c'était tout à fait novateur. C'était tout un bouleversement de la société française, et notamment dans les immenses zones rurales de l'époque, c'était une vraie réforme, que d'obliger les enfants à y aller. On voit donc qu'il avait réussi, en quelque sorte, à faire une réforme qui était portée par une idée. Elle était incarnée par un homme, mais portée par une idée, et l'idée, c'était le citoyen responsable. J'ajoute que c'est à lui, je l'ai d'ailleurs appris en potassant un petit peu pour notre petite réunion de ce soir, c'est à lui que l'on doit la première instruction en matière d'éducation religieuse, puisque c'est lui qui avait décidé qu'il y aurait un jour sans école, et ce jour sans école avait été instauré le jeudi, de telle sorte que l'instruction religieuse puisse être dispensée. Et il avait donc une vision qui était une vision, comme je vous le décrivais, qui était une vision purement républicaine, avec ce facteur de laïcité qui jouait et qui nous éloigne, en tout cas qui n'a rien à voir avec un esprit de revanche à l'égard de l'Église. C'était une conception positive, affermir une république qui soit une république en tant que valeur positive. C'était pas une sorte de revanche, une espèce de contention silencieux, une sorte de combat contre ceux qui portaient une image de religion. Et ça modifie substantiellement les choses, et c'est la raison pour laquelle j'insiste sur ce caractère fondamental de sa démarche, notamment dans le domaine de l'enseignement. Cette démarche, il l'a prolongée, il l'a poursuivie dans un autre registre, et lequel ? Tout simplement celui des libertés. Avoir des gens qui sont formés, c'est une nécessité. D'ailleurs, aujourd'hui, on le voit bien, l'éducation nationale demeure depuis des années et des années comme étant une priorité. Nous avons aujourd'hui, disons les choses clairement, un budget consacré à l'éducation nationale qui est de très loin le premier budget de la nation, qui ne doit pas être très, très loin d'ailleurs de représenter un quart du budget, c'est de l'ordre de 65 milliards d'euros. Nous avons toute une politique d'éducation dont on peut dire tout ce que l'on veut, tout ce que l'on en pense, mais on maintient, quoi qu'il en soit, une priorité en matière de formation, et je suis convaincu pour ma part que cette volonté ne découle que de la parfaite association entre une république, des citoyens éclairés et la formation, et c'est à Jules Ferry qu'on le doit. Puis en second lieu, le second pôle, si j'ose dire, de cette marche en avant vers la République, c'était bien entendu les libertés. La liberté, vous la connaissez, c'est la liberté de la presse, c'est la liberté syndicale, 1881 pour la première et 1884 pour la seconde. C'est bien entendu l'élection des maîtres par les conseils municipaux, et qui aboutit in fine à ce que l'on soit dans une logique là encore différente, puisque c'est un scrutin au deuxième degré. Un petit parenthèse de retour, mais je ne suis pas long sur le sujet, c'est pour vous dire que seul Paris allait demeurer sous la tutelle du préfet, il allait demeurer sous la tutelle du préfet jusqu'en 1976. Vous voyez bien que l'exception parisienne, vous voyez bien que le paradoxe parisien est toujours profondément marqué. Paris, dont je vous disais il y a quelques instants qu'elle aspirait à la liberté, qu'elle aspirait à l'autonomie, qu'elle aspirait à la décentralisation, à l'issue des réformes de ce régime démarrant de la Troisième République, Paris est la seule commune qui s'est retrouvée dans cette situation-là, c'est-à-dire dans la situation où elle était sous tutelle de l'État. C'est quand même quelque chose de paradoxal et que je trouve tout à fait intéressant. Quatrième donc leçon que je tire de tout ça. La cinquième leçon, là elle fait plus appel à des convictions, je sais que mesdames et messieurs vous les partagez tous, et elles sont pour moi, et je ne le dis pas simplement par rapport à ce que nous avons entendu hier soir, mais elles sont pour moi une des constantes de mon engagement politique. Vous me permettez de, dans un contexte qui n'a rien d'électoral, de vous livrer le fond des pensées qui m'habitent le plus. Il n'y a rien, vraiment rien, qui me fasse plus horreur que le racisme et l'antisémitisme. Et si je vous le dis, c'est parce que, c'est la cinquième idée que je vais développer, ce que j'ai constaté, ce que j'ai bien vu durant cette Troisième République, c'est qu'en réalité, l'antisémitisme est une des constantes de la Troisième République, et c'est un des facteurs politiques qui va structurer la vie de la Troisième République à cette époque. Et aujourd'hui, c'est une coïncidence, je me permets de la mentionner, mais je ne peux pas, au fond de moi-même, ne pas dire que c'est au-delà de la Troisième République, même si à mon sens elle a été plus illustrative que jamais de cela, c'est une des constantes de l'engagement politique. On peut tout penser. On peut penser ce que l'on veut de tous les débats que l'on ouvre, y compris les débats, j'ai mon opinion sur le sujet, sur l'identité nationale, du débat sur l'immigration, et ainsi de suite. La seule chose sur laquelle, pour moi, la vie politique ne transige pas, c'est le respect que l'on doit à la personne humaine, que l'on doit à la personne humaine dans toute son acception, c'est-à-dire quelle que soit la personne humaine. Et ce qui me frappe beaucoup, c'est que ce qui aujourd'hui est un débat qui, je touche du bois, paraît tranché dans la Ve République, en tout cas au stade où nous en sommes, non pas qu'il n'y ait plus d'antisémitisme, mais parce que le consensus est à peu près total sur ces questions-là. Ce qui me frappe beaucoup, c'est que dans cette Troisième République, on s'est aperçu qu'il y avait toute une série d'affaires, de scandales, qui, comme par hasard, ont toujours réussi à revenir vers l'antisémitisme. Dans cette Troisième République, du début jusqu'à la fin, on a eu des procès individuels qui ont été faits à des hommes et qui, d'une façon ou d'une autre, nous ramènent toujours à l'antisémitisme. Alors, on pourrait dire que ce sont des coïncidences. Ben, je me permets de vous poser la question parce que je me la pose à moi-même. Est-ce qu'on peut considérer que dans une Troisième République qui dure aussi longtemps, le fait que l'on retrouve à période aussi régulière, avec une récurrence aussi frappante, que l'on retrouve ce facteur d'antisémitisme, et pire que tout, que l'on constate que cet antisémitisme, au-delà des attaques insoutenables, indéfendables, inqualifiables contre les hommes, avait des conséquences politiques parfaitement parfaitement identifié. C'est-à-dire qu'en réalité, au nom de cet antisémitisme, on arrivait à couper la France en deux, on arrivait à avoir des procès faits contre les hommes et qui avaient des conséquences manifestes. Ça, pour moi, c'est un des facteurs qui est le plus frappant de la période. Des scandales sous la Troisième République, pardon, il y en a eu. Je ne me suis pas amusé à tous les décrire, je ne vais d'ailleurs pas le faire devant vous, ce n'est pas ce qu'on m'a demandé, ce n'est pas ce que je veux faire, mais il y en a eu. Il y en a qui ont été incongrus. Interrogez-vous, par exemple, sur le trafic des décorations du gendre du président de la République, Grévy, c'est quand même assez incongru. Il y avait un trafic de décorations, il faisait payer les récipiendaires pour avoir la Légion d'honneur, les gens effectivement payés, sauf que dans un Paris qui n'était quand même pas le cloisonnement total, ça finissait par se savoir, et ça aboutit à la démission de Grévy. Ça, je dirais que le scandale de cette début de Troisième République, celui-là, c'est un scandale classique. Mais que dire, en revanche, du scandale de Panama? Je me suis intéressé un peu plus précisément, mais avant de savoir que je viendrai parler devant vous, du scandale de Panama. C'est assez intéressant de mesurer combien d'une belle idée, au début, celle du creusement de ce canal de Panama, on a abouti à des dérives qui sont des dérives financières. Il s'est agi en réalité de pouvoir réunir les capitaux nécessaires pour pouvoir entreprendre le fameux creusement, qui ne sera d'ailleurs jamais entrepris. On a abouti, ce qui nous laisse encore dans une dérive purement financière, ce qui est déjà beaucoup, on a abouti, en quelque sorte, à avoir des gens qui sont spoliés. Il y a eu des manifestations très importantes de mécontentement de la part de ceux qui ont tout perdu, et ça peut parfaitement se comprendre. On a surtout, in fine, abouti à ce qu'il y ait la mise en cause de banquiers qui étaient, comme par hasard, des banquiers juifs, et cette mise en cause aboutissait très concrètement à les stigmatiser. Il ne s'agissait plus d'être dans l'affaire du canal de Calama en tant que tel, il s'agissait de se livrer à de véritables opérations d'antisémitisme primaire. Et un journal comme celui d'Édouard Drumont dans les années 1890-92, ce n'est que ça. Ce n'est que ça. Il y en a 3 ans avant l'affaire Dreyfus. Je ne vais pas décliner devant vous l'affaire Dreyfus, c'est totalement inutile. Mais quand vous voyez ce que l'affaire Dreyfus, pour ne parler que d'elle, a réussi à faire comme bouleversement dans la Troisième République, et pardon de le dire, sur tout le XXe siècle, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et personne ne pourra me dire que ce n'est pas structurel dans notre paysage politique aujourd'hui que d'évoquer l'affaire Dreyfus. Je vous prends 2 ou 3 illustrations de cela. Je ne parle pas de l'engagement pour la première fois des intellectuels. On prétend, on dit que le mot intellectuel a été forgé exprès à l'occasion de l'affaire Dreyfus parce que les intellectuels s'engageaient. Vous connaissez comme moi l'engagement, bien sûr, de Zola. Vous connaissez comme moi celui d'homme politique qui était très, très... très, très clivé, mais enfin, en tout cas, il y a eu un engagement. Et cet engagement, au XXe siècle, il ne s'est jamais démenti. Est-ce qu'il y a une seule élection aujourd'hui auquel on participe, je parle au niveau de la présidence de la République, où on n'ait pas besoin d'avoir derrière soi une corde d'intellectuels qui vous donne des opinions, d'ailleurs, sur à peu près tous les sujets, qui ont le statut d'intellectuel, ils vous parlent, ils ont écrit un bouquin sur à peu près tous les sujets, et ils sont là. Aujourd'hui, pas une élection ne se fait sans qu'on ait besoin d'avoir l'opinion d'un intellectuel. Je ne le reproche pas, je le constate. Sur un plateau de télévision, ça m'arrive d'aller sur des plateaux de télévision, vous êtes dans un débat, vous êtes à peu près assuré de vous retrouver avec 3 ou 4 contradicteurs, ou pas contradicteurs, qui sont tous des intellectuels reconnus comme tels. Ça date de l'affaire Dreyfus. C'est intéressant. Deuxième chose qui me frappe beaucoup, regardez l'engagement catholique. Contrairement à ce que beaucoup pensent, quand la Troisième République a démarré, pour des raisons diverses et variées, j'ai pas eu le temps de rentrer trop dans le détail, mais c'est quelque chose qui apparaît clairement, le pape, contrairement à des idées reçues, n'avait pas poussé les catholiques français à s'ériger contre la République naissante. Pour une raison d'ailleurs très simple, c'est que le pape, dans la situation de l'Italie de la fin du XIXe siècle, n'en avait pas les moyens, et puis il ne souhaitait pas rentrer directement en conflit avec les autorités françaises, dont il escomptait qu'elles l'aideraient à pouvoir se sortir de la situation dans laquelle il était lui-même. Et le pape a plutôt incité les catholiques français, les papes d'ailleurs, il y en a eu 2, à rester assez en retrait. Qu'est-ce qui fait que le clivage s'est fait tout de suite entre les instructions données par le pape et les catholiques français? C'est l'affaire Dreyfus. On a eu, à ce moment-là, quasiment tous les milieux conservateurs et catholiques qui sont rentrés directement dans une forme de contestation de l'innocence de Dreyfus dans un premier temps, dans l'anti-dreyfusisme dans un second temps, de façon extrêmement claire. Et on a constaté en cette occasion qu'il y avait dans la République qui était adolescente, enfin, ou en tout cas en voie de maturité, qu'il y avait une vision radicalement différente du catholicisme. catholicisme avant et après l'affaire Dreyfus. D'ailleurs, ne vous étonnez pas si, quelques années après, je ne le décris pas, mais je vous incite à y jeter un coup d'œil, c'est pas pour rien que Combes, en 1905, a fait passer les lois de séparation de l'Église et de l'État. Vous connaissez ça comme moi. Ça a été un bouleversement. Ça a été quelque chose de tout à fait nouveau. Mais en toute hypothèse, c'est quelque chose qui découlait en grande partie de ce qui s'était passé au moment de l'affaire Dreyfus. Donc, ce que je veux simplement dire, c'est que si on voit cette période, si on se réfère à la période de de l'entre-deux-guerres, avec en particulier toutes les attaques, et les attaques objectivement assez ignominieuses dont a été l'objet un homme comme Blum, si on voit quelle était la presse de l'entre-deux-guerres, et en particulier les dessins, les caricatures qui étaient faites, on se rend compte que cette Troisième République a quand même été assez structurée politiquement par cet antisémitisme. Et je voudrais vous dire ici que pour moi, c'est pas simplement un sujet d'intérêt ou un sujet d'histoire, c'est plutôt une des constantes que l'on retrouve sur les années qui font la Troisième République et qui méritent, je crois, une grande attention. Puis j'en termine par ce sixième point sur lequel je voulais vous dire un mot. Ce qui m'intéresse dans cette Troisième République, mais là, cette fois-ci, je suis plutôt sur la fin de la Troisième République, c'est la crise comme symbole de la mondialisation. Là, j'ai plutôt envie de m'arrêter quelques instants sur ce qui s'est passé en 1929. Ce qui s'est passé en 1929, c'est quoi ? C'est en réalité la première fois, non pas simplement qu'il y a un mouvement mondial de difficultés économiques avec les conséquences que cela entraîne, qui touche tous les pays, dont la France. La France, d'ailleurs, je me permets de faire un clin d'œil à l'actualité, plus tard que les autres, mais la France plus profondément que les autres. C'est toujours comme ça que ça se passe, et ça s'est passé encore cette fois-ci de la même façon. On rentre plus tard que les autres dans le problème, mais on en sort plus tardivement. Et je le dis au passage, si ça vous intéresse, on peut dire un mot après, je suis très frappé par le parallélisme des formes. Non, moi, ce qui m'intéresse beaucoup plus là dans cette crise, c'est le fait qu'elle devient le symbole de la mondialisation, parce que tout le monde a constaté, a posteriori, vous me le direz, qu'on était dans l'obligation aujourd'hui d'avoir des réactions qui soient des réactions homogènes et qui soient des réactions concertées pour des événements qui sont forcément de dimension globale. Si dans l'histoire économique, dont je ne suis pas un spécialiste, je devais tirer une leçon de cette période de la Troisième République, eh bien je dirais que c'est vraiment l'émergence de la prise de conscience de l'idée de globalisation et de monde globalisé. Personne aujourd'hui ne peut dire, à mon sens, à aucun moment, qu'on n'a pas pris conscience à l'occasion de la crise de 1929 qu'il y avait un besoin d'une réponse mondiale. Et ce qui est intéressant, c'est que il y a toute une série de conséquences engendrées par la crise économique qui aujourd'hui sont présentes dans les esprits. Il y a d'abord la crise en tant que telle. Tout le monde a bien compris que ça démarre généralement aux États-Unis, ça se diffuse sur la planète, ça c'était le cas en 1929. Il n'y a pas eu une réponse qui était une réponse appropriée. Le système bancaire n'a pas été sauvé, c'était très bien décrit par Attali. Résultat des courses, des économies entières ont été littéralement balayées. La crise, avec ses conséquences économiques, on les a vues. Les crises politiques, pardon de le dire, suivent toujours les crises économiques. Et je peux vous assurer, et je le tiens, si je peux l'exprimer, de réflexion en haut lieu, y compris de l'actuel président de la République, dans des conversations qui sont des conversations plus personnelles, et ça m'arrive d'en avoir avec lui, l'un des facteurs sur lesquels tous les hommes politiques, droite et gauche confondus, sur ce continent comme sur les autres, se sont accordés, c'est pour bien comprendre qu'il fallait non pas simplement arrêter la crise pour des raisons économiques, non pas simplement arrêter la crise pour des raisons qui sont des raisons sociales, mais également l'arrêter pour des raisons qui sont des raisons politiques. Je voudrais attirer votre attention sur le fait que la France rentrant plus tardivement que les autres dans la crise de 1929, vous avez, je l'évoquais dans le point précédent, vous avez en France toute une série de manifestations politiques dans les années 1934-1935 qui se sont développées sur, en réalité, l'incapacité à juguler la crise. Ça a été, comme je le disais tout à l'heure, évidemment, l'antisémitisme. Ça a été les manifestations antiparlementaires portées par un discours d'extrême droite. Regardez toujours le discours de l'extrême droite. Il est certes antisémite, il est toujours antiparlementaire. Pardon de faire ce petit clin d'œil à l'actualité, mais si vous observez à tous les niveaux, y compris au niveau local, les attaques dont vous êtes l'objet, vous verrez qu'il y a toujours une attaque qui provient de milieux d'extrême droite lorsque l'antiparlementarisme, l'antirepresentativité est mise en avant. C'est un problème qui est un problème récurrent, et ce qui me frappe énormément, c'est que c'est toujours dans les phases où il y a la crise économique qui suit la crise sociale qui suit la crise économique, que l'ensemble est suivi en dernier lieu par la crise politique. Je dois vous inciter, mais je pense que vous le faites sans moi, à lire les journaux de l'Action française ou de la Croix de Feu, à vous rappeler les diatribes antiparlementaires qui étaient portées à l'époque, à voir l'incroyable dureté des attaques qui étaient portées dans les journaux et qui se terminaient parfois par des suicides ou par des démissions, et parfois par des conséquences politiques. Le gouvernement d'Aladier est tombé à la suite de ces mouvements-là. J'en tire en tout cas une conséquence pour ma part, c'est que en prenant conscience de cette nécessité de juguler, d'arrêter la crise dans tous ses aspects, on prend conscience en réalité comme on est près, si j'ose dire, du précipice si on ne réagit pas tout de suite. Et c'est ça qui, finalement, me frappe le plus sur ce dernier point. Ma conclusion, donc, elle tient en quelques mots. Je vous le répète, j'ai pas voulu... c'est pas pour ça que vous êtes venu, et puis j'ai pas besoin de moi. J'ai pas voulu vous faire une chronologie. J'ai voulu vous dire quels étaient pour moi, dans la Troisième République, les 5 ou 6 points que je voyais. Je voudrais terminer en vous faisant part d'une réflexion qui est de nature plus globale. Je crois que ce qui est très intéressant dans la Troisième République, c'est de mesurer que... finalement, il y a un adage tout bête qu'on pourrait édicter qui résume tout. C'est que la faiblesse, en quelque sorte, ne paye jamais. Je l'illustre évidemment par ce qui est de plus illustratif, à savoir l'entrée dans la Seconde Guerre mondiale. Quand vous voyez dans quelles conditions, après l'invasion de la Tchécoslovaquie par Hitler, on a conclu les accords de 1938, vous mesurez combien lucidité que l'on a avec le recul, aurait peut-être pu ou dû réussir à percer les œillères du personnel politique. Mais il a fallu que l'Assemblée nationale confia les pleins pouvoirs au maréchal, que 80 députés en tout et pour tout de mémoire n'acceptent pas cette compromission, pour que nous ayons, pour un gaulliste comme moi en tout cas, pour que nous ayons le grand sursaut, celui du général de Gaulle, qui a abouti à refaire une France, à refaire une Europe, à bâtir un monde un peu différent. Je ne dis pas qu'il est forcément meilleur, mais c'est ça, finalement, le fond du sujet. Et je dirais que ce qui illustre pour moi cette Troisième République, c'est finalement cette leçon. La leçon, c'est que la faiblesse des hommes, celle du début de la Troisième République, explique bien des choses. Je vous ai dit tout à fait au début de mon petit topo pourquoi la faiblesse d'un homme, le prétendant légitimiste, avait abouti à ce qu'il ne soit pas en mesure de pouvoir réunir toute sa famille. La faiblesse d'un régime, c'est la fin de la Troisième République, a abouti à peu près au même résultat. On trouve deux fois Sedan, d'ailleurs, c'est une coïncidence. On aboutit en quelque sorte à une espèce de compromission, et au final, ça se termine toujours par un désastre. Je dirais que si je devais tirer une dernière leçon de tout ça, ce serait de partir de l'idée selon laquelle il faut avoir des convictions, il faut respecter celles des autres, et il faut, dans ce domaine-là comme dans les autres, définir une ligne à partir de laquelle on considère qu'on ne doit pas aller. C'est d'ailleurs ce que aujourd'hui le droit, plus que le reste, fait. La Troisième République, je pourrais plus l'écrire sous cet aspect aussi, c'est tout un bouleversement législatif et réglementaire, avec toute une série de lois de protection de l'individu, de protection des syndicats, de protection des travailleurs qui ont été mises en place. Il y a toute une série de jurisprudence qui découlent encore, et qui sont encore appliquées aujourd'hui, qui découlent de ces années-là. Ça veut dire qu'il y a cette espèce de petite démarcation qui se fait. La société a avancé dans ce sens. Les politiques ne sont pas allés aussi loin. On voit ce que cela a donné. En ce sens, la Troisième République est pleine de leçons. Et je crois que c'est bien de les méditer. Je vous remercie en tout cas, vous, d'avoir eu la gentillesse de m'inviter à le faire devant nos amis, et vous d'avoir eu la patience de m'écouter pendant ce peut-être trop long exposé. Merci infiniment.